Et comme convenu, nous sommes en direct avec Nohaïla Khrad, nutritionniste et diététicienne. Bonjour Nohaïla, comment allez-vous ?
Bonjour Selma, très bien et vous ?
Très bien, on est ravis de vous avoir avec nous en cette matinée.
Le plaisir est toujours à moi d'être avec vous sur Matin Famille.
Merci beaucoup. Et comme je disais à nos auditeurs, aujourd'hui, eh bien, on va parler des féculents, leurs bienfaits et comment bien les consommer. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est quoi les féculents ?
Alors, les féculents, comme on le connaît, ce sont des aliments qui sont déjà d'origine végétale. Mmh. Et c'est des aliments qui sont principalement composés ou riches en amidons. C'est, mmh. c'est le composant phare dont on entend parler et qui préoccupe assez de gens quand on parle sur l'amidon ou sur les féculents. Mmh. Donc, ces féculents-là nous apportent ce qu'on appelle les glucides complexes. Donc, qui, contrairement aux glucides simples des aliments sucrés comme des sodas ou pâtisseries ou confiseries, bah, fournissent une énergie que le corps va utiliser de manière progressive. Mmh. D'où, vraiment, on peut séparer parce que tout de même, les féculents sont une source de sucre qu'on apporte à notre corps à travers l'alimentation. Mais comme on vient d'expliquer, il y a une différence entre les glucides complexes et les glucides simples. Donc, ces glucides complexes, qui sont les féculents, qui sont composés en amidon, vont fournir cette énergie au corps de manière progressive. Comme on l'a dit sur plusieurs autres, d'autres capsules d'autrefois, mm-hmm. C'est toujours la préoccupation de est-ce que l'aliment qui contient du sucre va faire à ce que la glycémie augmente rapidement dans le corps ou de manière progressive et lente. Donc, aujourd'hui, je vous dis que les féculents, en règle générale, c'est les aliments qui vont faire à ce que la hausse de cette glycémie sanguine va être de manière lente et progressive.
D'accord.
Et là, bien sûr, on va parler sur différents types de féculents. Donc, on a les féculents qui sont naturellement transformés et les produits qui sont transformés. Mmh. Et quand on parle de non transformés, bah, on a les graines de céréales comme le maïs, le riz, le blé. On a certains fruits qui contiennent aussi de l'amidon comme la banane et la châtaigne. On a des légumineuses qui sont les lentilles, les pois chiches, les fèves, les haricots blancs, par exemple. Des tubercules comme la pomme de terre ou le topinambour. Mmh. Et on a aussi des racines comme le panais ou le manioc. Et contrairement à ça, on a les produits qui sont transformés ou les féculents transformés, qui sont industriels ou artisanaux, comme les farines, les fécules, les pâtes, les pains, etc.
Et justement, comment bien consommer ces féculents dans un régime équilibré ?
Alors, quand on parle de régime équilibré, eh bien évidemment, on parle des trois macronutriments, à part les micronutriments, qui sont les vitamines et minéraux. Donc, les trois grands groupes de macronutriments sont les protéines, les graisses et les sucres ou carbohydrates. Donc, quand on parle de protéines, graisses et carbohydrates, on a une règle qui a été établie, c'est que notre corps, il a besoin de 15% de nos apports en protéines, 30 à 35% en graisses et 50 à 55% d'apports journaliers en fonction de nos besoins en carbohydrates ou ce qui équivaut aux glucides. Mmh. Alors là, quand on parle de carbohydrates ou glucides, on vient de différencier les deux groupes, c'est les glucides complexes et les glucides simples. Il faut toujours garder ce ratio qu'il ne faut pas dépasser 10%. En fait, dans les 50%, il ne faut pas qu'on ait plus que 10% de sucre rapide. Mmh. Parce que comme on le sait, le sucre rapide a plusieurs autres impacts aussi qui sont néfastes sur notre santé. Et si on parle en termes de portions, bah on va peut-être pouvoir se baser sur l'assiette de Harvard qui à peu près idéalise, on nous rapproche du plat idéal à consommer pour avoir des portions qui vont être adéquates en macronutriments. Donc là, on va avoir la moitié de l'assiette qui va être composée de végétaux, de légumes et fruits. On va avoir le quart de l'assiette qui va être composée en protéines. Oui. Et on va avoir le reste du quart de l'assiette qui va être composée en glucides ou carbohydrates, surtout les glucides complexes.
Et est-ce qu'il y a des populations et des personnes qui doivent justement limiter leur consommation de féculents ?
En commençant déjà par les diabétiques, ceci ne veut pas dire qu'ils doivent éliminer, mais comme vous venez de le dire, ils doivent limiter.
Oui.
Et quand je dis limiter, c'est plus... en fait, ce n'est pas de réduire de manière drastique les quantités juste comme ça, mais c'est plus d'ajuster les quantités en fonction de leurs besoins.
Oui.
Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent arriver à on ne va pas dire qu'ils peuvent arriver, mais leurs besoins, c'est par exemple manger 100 grammes de pain au petit-déjeuner. D'autres personnes, c'est par exemple manger 50 grammes. D'autres personnes, c'est peut-être 120 grammes. Donc, on essaye de s'adapter en fonction de la personne, parce que quand on parle d'un diabétique, on parle déjà de son poids le jour J ou la semaine même où on va travailler sur ça. On va parler également de la dose de médicaments qui lui est prescrit par son endocrinologue traitant, mais également sur son niveau de glycémie à jeun et aussi sur son hémoglobine glyquée qui va un peu nous orienter pour pouvoir lui offrir une quantité qui va lui être adéquate sans qu'il ait des problèmes d'hypoglycémie, c'est-à-dire la baisse de glycémie sanguin, et aussi sans avoir des problèmes d'hyperglycémie, qui est l'augmentation ou la hausse de niveau de glycémie sanguin.
Oui.
Donc l'idéal, là, c'est plus de travailler sur des quantités qui vont être adéquates. Après aussi, il y a personnes qui doivent limiter la consommation de glucides. Et on va parler aussi sur les personnes qui sont en rééquilibrage alimentaire afin de perdre du poids. Mm-hmm. Mais on a aussi, en fait, quand on parle de limiter les quantités, c'est plus qu'il faut parler sur une optique où tout le monde devrait manger les féculents ou consommer les féculents dans le cadre d'une portion adéquate pour ne pas en exagérer, parce que ce qui va être par la suite, c'est soit la prise de poids, soit des problèmes métaboliques, par exemple le diabète qu'on vient de mentionner. Il y a parfois des personnes qui consomment beaucoup de féculents, mais qui rajoutent aussi beaucoup de sucre rapide, comme les fruits, le miel, confiture et compagnie. Et ils vont souffrir par la suite de soucis ou de problèmes de triglycérides élevés au niveau sanguin. Donc, l'idéal, ce serait plus de garder cet équilibre en tête afin que notre santé puisse être optimale.
OK. Et c'est vrai que parmi les féculents transformés dont vous avez parlé, il y a les pâtes. Alors les pâtes divisent pas mal et c'est vrai qu'ils sont considérés comme des aliments qui font prendre du poids. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors ce n'est pas vraiment le cas. Mm-hmm. C'est la simple raison que tous les glucides ou tous les féculents qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est des féculents que si on consomme plus de quantité, parce que là on va parler d'une règle mathématique. Mm-hmm. Si par exemple, moi, mes apports dépassent mes besoins, c'est-à-dire si moi, par exemple, mes besoins sont 1500 calories et moi, je consomme 2500 calories par jour, mais sans faire une dépense énergétique qui va être l'activité physique régulière, bah, automatiquement, il y aura du stockage. Mmh. Et ce stockage, c'est ce qui fera qu'on puisse prendre du poids. Contrairement à ça, si moi, je consomme, j'ai un apport journalier qui n'est pas loin de mes besoins journaliers, mais qu'en parallèle, je pratique une activité physique qui va me permettre de faire cette dépense énergétique, à ce moment-là, je n'ai pas ce souci. Après aussi, on va parler ici sur les pâtes, on va parler sur la qualité des pâtes, parce que les pâtes blanches ne sont pas des pâtes complètes. Mmh. Quelle est la différence? Là, on ne va pas parler en termes de calories, mais on va parler plus sur le côté qualité. Les pâtes complètes, elles sont plus riches en fibres, donc forcément, on va se rassasier en consommant une moindre quantité que si on consomme des pâtes blanches, où on a un apport en fibres, mais qui est minime par rapport aux pâtes complètes. Mmh. On a aussi, l'autre point qui est aussi nécessaire, c'est le mode de cuisson. Dans les modes de cuisson des pâtes, c'est qu'on va les cuire dans l'eau, mais est-ce qu'il faut que ça soit consommé beaucoup ou que ça soit consommé al dente? C'est ça la différence.
D'accord.
Quand on consomme les pâtes al dente, et c'est des pâtes dont leur index glycémique n'a pas été très élevé. Mmh. Donc automatiquement, ça va nous sauver des problèmes par la suite de prise de poids, de hausse de glycémie chez les diabétiques et compagnie. Contrairement aux pâtes, quand elles sont trop trop cuites, donc leur index glycémique est trop élevé, et automatiquement ce stockage de sucre qu'on a consommé ou qu'on a apporté à notre corps à travers des pâtes qui sont des carbohydrates, donc ça va se stocker dans notre corps sous forme de graisse à travers des réactions biochimiques qui se passent dans le corps. Oui. Donc d'où l'importance de ne pas diaboliser les pâtes. Et parce que si on diabolise les pâtes, on va aussi parler sur le pain, on va parler sur le riz, le quinoa, le hébli, les légumineuses, on a le couscous, on a le boulgour, on a vraiment beaucoup de féculents comme la pomme de terre, la patate douce et compagnie. Donc l'idéal là, c'est pas de dire qu'ils vont nous faire prendre du poids si on les consomme dans comme on a expliqué là tout de suite, mais c'est plus que c'est pas que les pâtes, c'est tous les féculents. Ça s'applique sur tous les féculents. Il faut faire attention au mode de cuisson, à la quantité qu'on va consommer, mais aussi à cette équation d'apport journalier, besoin journalier et dépenses énergétiques journalières.
Oui, et aussi par rapport aux pâtes, ce qui est aussi gras, entre guillemets, c'est souvent la sauce en fait, que l'on met dessus, surtout les sauces industrielles qu'on achète au supermarché.
Absolument.
Voilà, c'est exactement. Toujours privilégier le fait maison pour les sauces.
Mais mis à part ça, c'est aussi l'équilibre de l'assiette, comme on a mentionné sur l'assiette Arba, par exemple. Moi, généralement, j'essaye de corriger les habitudes alimentaires des patients. Et quand il y a des patients qui aiment les pâtes, bien évidemment, on ne va pas aller leur éliminer les pâtes, on ne va pas leur interdire, parce que ça reste quand même un aliment qui est complet. Mais c'est plus l'équilibre au niveau de l'assiette. Je ne vais pas avoir un déjeuner ou un dîner basé uniquement sur des pâtes avec une sauce tomate, que ce soit maison industrielle ou une sauce béchamel ou une sauce blanche, et bourré de fromage, mais c'est plus de garder un petit apport de pâtes, rajouter une portion de protéines, que ce soit poisson ou volaille ou viande hachée par exemple, et aussi rajouter des légumes qui vont aider à ce que l'index glycémique soit encore plus bas et à ce qu'on n'ait pas de problème au niveau du stockage de graisse par la suite.
Oui. Et justement, et ça sera notre dernière question, beaucoup de gens en fait arrêtent de manger des féculents transformés comme les pâtes, le pain blanc ou le riz blanc pendant un régime. Est-ce que c'est recommandé?
Ce n'est pas du tout recommandé pour les personnes qui sont en bonne santé. Oui. Pour la simple raison qu'on a expliqué, c'est que notre corps il a besoin de ces trois groupes de macronutriments.
Exactement.
Et comme on l'a mentionné au départ, 50% de nos apports doivent être en glucides. Donc, regardez l'importance des glucides. Les glucides, si on le comprend bien, si on exagère, si on fait des excès en termes de quantité et qu'il n'y ait pas cette équation dont on a parlé là tout de suite sur apport, besoin et dépenses énergétiques, bien évidemment, on aura des soucis au niveau de la santé, au niveau du poids et compagnie. Mais le fait à ce qu'on les élimine de manière complète, notre corps a besoin de cette énergie. Cette énergie de glucides ou carbohydrates, c'est le sucre qui nous donne cette énergie pour pouvoir faire nos activités journalières. Aussi, vous vous rendez compte, quand on a des sportifs des sportifs de haut niveau, mais des personnes qui pratiquent de l'activité physique, normalement, on recommande, après l'activité physique, qu'il y ait un repas complet qui va être constitué de glucides complexes. Des glucides comme le riz complet, comme le riz basmati, par exemple, dont son index glycémique est très bas, des pâtes complètes, du quinoa, de la pomme de terre, de la patate douce, des légumineuses, du pain complet. Donc vraiment, il faut varier ces sources déjà de féculents. Mais pourquoi les féculents? Parce que ça va aider à récupérer après l'exercice, ça va aider aussi à donner cette énergie en termes généraux. Donc vraiment, on a besoin des glucides. Le fait qu'on élimine des glucides de manière définitive, ce ne serait pas l'idéal. On va dire par exemple, à titre d'exemple, on a des régimes comme le keto où il ne faut pas consommer des glucides et des sucres de manière générale. Alors à ce moment-là, le régime keto, on connaît qu'il n'est pas destiné à tout type de personnes. Il a été plus destiné pour les personnes qui sont épileptiques, par exemple. C'est vraiment un régime qui a été créé au contexte. Les scientifiques, après plusieurs études, ils ont trouvé un régime qui correspondait à cette catégorie de personnes qui souffrent de cette maladie, mais qu'aussi il avait des bienfaits sur les personnes diabétiques, pour la perte de poids, pour lutter contre la résistance à l'insuline. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faut éliminer les glucides de manière définitive.
Oui, exactement.
Donc, l'idéal, ce serait de garder des portions qui sont adéquates parce que, comme on le sait, 50% de nos apports journaliers en macronutriments devraient être des sources de glucides et surtout des glucides complexes.
Eh bien, merci beaucoup, Noël Errat, pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et diététicienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à la semaine prochaine et très bon week-end.
Merci, Selma. Très bon week-end.
Au revoir.
Au revoir.